Bon, alors les amis, le Seigneur est avec nous, n'est-ce pas? Comme d'habitude, quand j'étais débutant pasteur, j'aimais bien venir ici, parce que dans nos églises protestantes unies, quand on a ressenti ou compris qu'il y avait un thème de prédication, il fallait tout de suite téléphoner aux équipes de louanges, aux équipes de liturgie. Voilà, je vais prêcher sur tel et tel sujet, essayer de trouver des harmonies avec ça. Et là, nous avons chanté que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse rayonner sur toi son visage, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Et ben, c'est le sujet de ma prédication. C'est le sujet de ma prédication et je voudrais aussi expliquer pourquoi ça m'est venu. D'abord parce que j'ai la grande joie d'être avec nos deux jumeaux, Pierre, Mathieu et Elisabeth, qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Voilà. Enfin, c'était avant-hier, mais bon. Et pour un père, avoir des enfants qui se tournent vers Jésus-Christ, c'est une grande bénédiction. Ça, c'est un point. Deuxième point, eh bien, maintenant, je ne suis plus pasteur, je suis plus au travail comme Bernard. Faut lui trouver un remplaçant, les frères, là. Seigneur, envoie un remplaçant à Bernard, à Daniel, à l'équipe. Alors, donc, moi, je suis plus au travail. Et donc, je vais souvent écouter des prédications et prier avec l'Assemblée, les assemblées. Et donc, le 5 septembre, nous étions à l'Assemblée régionale. Et là, il y avait le président du conseil régional, le pasteur Crémer, qui nous a parlé. Il nous a dit, voilà, avec quelques collègues, nous avons fait une retraite. Et nous avons décidé d'étudier, que le Seigneur te bénisse et te garde. Et je vais vous, dit-il, je vous apporte un message. Nous avons expérimenté pendant ces 24 heures où nous étions ensemble que oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire comme Aaron. Il faut prononcer la bénédiction, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur fasse rayonner sa face sur toi, que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu'il te donne sa paix. Car Dieu dit, là, je bénirai, et parce que ça, c'est annoncer mon nom. Et alors il disait, ben voilà, dans votre prière personnelle, vous pouvez bénir la prière de Aaron sur les personnes de vos familles, de vos amis, tous ceux à qui Dieu vous donne de penser. Priez cette prière, vous verrez, c'est efficace, ça marche. Alors, je vais vous dire, mais ça, comme vous m'avez déjà entendu prêcher, vous le savez, j'ai beaucoup de mal, moi, avec la prière, surtout la prière lointaine, quand on demande des intentions à Dieu lointain. Alors, je me suis dit, tiens, ça, c'est intéressant, ça. Au moins, j'ai un texte de prière. Et puis, dans les quelques jours qui ont suivi, ça, c'était dimanche, donc mardi ou mercredi, nous recevons un coup de téléphone de notre fille aînée, Myriam, qui est engagée dans une église. Catch the Fire à Montréal et elle a un ministère, donc enfin je veux dire c'est une personne équipée et elle me dit papa on t'appelle, il faut que tu pries pour notre fille aînée Alexia, elle a 14 ans, elle a changé d'établissement, depuis qu'elle a changé d'établissement, elle ne parle plus à personne, elle ne parle pas à des amis dans l'établissement, elle rentre, elle s'enferme dans sa chambre, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle est malheureuse, elle ne nous parle plus, nous sommes très malheureux. Et ma femme et moi, nous avons dit, ah ben on a un équipement maintenant. Eh bien, on va prier. Seigneur, bénis et garde Alexia. Seigneur, fais rayonner ton visage sur Alexia. Et quelques jours plus tard, on a eu un coup de téléphone de Myriam qui a dit, Alexia est sortie de sa chambre et elle a passé un après-midi avec nous à rire. Donc, recevoir de Dieu par la Bible cette parole de bénédiction et la mettre en œuvre en toutes circonstances, c'est une action bénissante. C'était mon petit récit en préalable. Donc, bien sûr, vous savez toutes ces choses, mais c'est toujours bon. Paul dit, c'est toujours bon de se redire les mêmes choses parce que ce sont des bonnes choses de Dieu. Alors, j'ai un petit plan. Il y a un diaporama qui peut s'allumer. J'ai un petit plan à vous montrer pour savoir où je vais vous emmener. Voilà. Donc, ben, on va dans notre première partie voir qu'est-ce que c'est donc cette bénédiction et qu'est-ce que nous comprenons, hein, que le Seigneur fasse rayonner son visage sur toi, comment on comprend qu'il tourne sa face vers toi, est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est différent, voilà. Donc on va voir un peu qu'est-ce que la bénédiction, puis la bénédiction d'Aaron et comment on va la comprendre. La deuxième question brièvement que je me suis posée, c'est est-ce qu'il est légitime de bénir quiconque ? Parce que la bénédiction d'Aaron, c'est pour le peuple de Dieu, quand même. Et puis, comment pratiquer ? Voilà, ce sera mon petit plan ce matin. Alors, d'après un dictionnaire de la Bible, la bénédiction, c'est la prière la plus fréquente des Écritures. Il y en a 398 exemples dans les Écritures. La bénédiction, c'est une parole bienfaisante et agissante, qui repose essentiellement, en priorité, sur les êtres vivants. Alors, c'est que ça commence comme ça, au moment où Dieu a créé le monde. Eh bien, après avoir créé les animaux de toute espèce, Dieu les bénit pour qu'ils soient prolifiques, qu'ils croissent. Et puis, Dieu bénit les êtres vivants, et les êtres vivants sont habités par la force de vie. Quand Dieu nous bénit, nous sommes habités par la force de vie. Voilà ce que je retiens. Et donc, on peut mettre la définition, première définition. La bénédiction est une parole de Dieu agissante qui garantit à ceux qui en sont les destinataires une force vitale et par là, un avenir. Alors, dans l'Ancien Testament, en fait, il y a deux origines du mot bénédiction pour nous, pour les lecteurs de la Bible, parce que c'est dans l'Ancien Testament principalement et dans le Nouveau principalement. Dans un cas, dans l'Ancien Testament, c'est le mot « barak » qui vient de « berek » qui veut dire « les genoux ». Alors vous pouvez interpréter comme vous voulez, on prie à genoux. Mais en tous les cas, ça donne aussi la « baraka ». Et la baraka, c'est cette force que nous recevons. J'ai la baraka, j'avance. Ce que Dieu me donne de faire, je le fais et ça porte des fruits. Pour simplifier, on dit la baraka, c'est la chance. Mais nous, c'est la chance qui vient de Dieu. C'est la bénédiction. Voilà. Et puis, dans le Nouveau Testament, ça apparaît aussi dans l'Ancien, en fait, ça vient du fait que quand on a traduit l'Ancien en hébreu, quand on l'a traduit en grec 300 ans avant Jésus-Christ, les Grecs ont choisi le mot « eulogéo » qui veut dire une bonne parole. « Eux » comme « heureux », « bonne », et puis « logéo », la parole. Donc, dire une bonne parole. Bénir, c'est dire une bonne parole. Donc, dans la traduction de l'Ancien Testament, dans la langue grecque, on a cette forme-là, mais heureusement, on a conservé le barak, c'est-à-dire la force vitale qui vient et que Dieu nous donne. Alors, le premier homme dans l'histoire qui a été béni, c'est Abraham. Voilà. Ben, est-ce que quelqu'un peut le lire à bien haute voix ? Comme ça, je me repose un peu. Voilà, plus tard, dans le récit de la Genèse, on dira, Abraham a cru, il est parti, il n'a pas laissé la bénédiction, et il est parti, il s'est mis en route. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas extraordinaire, mais ça entretient notre foi. Donc, cette bénédiction d'Abraham, on voit que c'est une parole qu'il a mise en route. Donc, la bénédiction que nous avons chantée tout à l'heure, toutes les bénédictions, mais celles de l'Écriture, sont des paroles qui nous mettent en route. Après avoir été béni, Abraham devient lui-même source de bénédiction. Il a accueilli la bénédiction et il devient source de bénédiction. C'est formidable, vous ne trouvez pas ? Dieu est fidèle à sa parole. Il le dit et il va le faire. Et malgré l'infidélité du peuple et parfois l'infidélité de l'Église, eh bien Dieu est constant dans ses promesses, il est constant dans sa parole. À la suite d'Abraham, la bénédiction de l'Éternel s'est répandue sur toute la terre. Elle a son aboutissement en Jésus-Christ et les missionnaires. Son but à la bénédiction, c'est d'atteindre toute l'humanité. Car Dieu veut que les hommes et les femmes, comme on dit aujourd'hui, Dieu veut que les hommes et les femmes de cette terre soient bénis. En fait, Dieu veut une humanité bénie. Est-ce que j'ai marqué ça sur la diapo suivante ? Une humanité bénie, qu'est-ce que c'est ? C'est une humanité remplie de la force de vie qui vient de Dieu. C'est ça, en fait, la bénédiction. Recevoir la bénédiction, c'est être rempli, baraque, de la force qui vient de Dieu. La Genèse est pleine de versets dans lesquels la bénédiction de Dieu est source de bonheur, de prospérité, de joie, de vie. Et à la fin du livre de la Genèse, le patriarche Jacob bénit ses 12 fils plus Manassé et j'ai oublié son nom, Éphraïm, merci. Et il adresse à chacun une bénédiction particulière. C'est intéressant ça. Il ne répète pas la même bénédiction ou bien il ne renie pas ses 12 fils en disant « Dieu m'a béni, je vous bénis ». Non, chacun a une parole qui, lui est, qui est la sienne. Donc la bénédiction, c'est tout bonnement la présence de Dieu au sein de l'humanité, telle qu'elle est. Alors, dans le livre des psaumes, poèmes, chants et prières, on trouve la bénédiction racontée sous plusieurs formes. Donc, par exemple, au psaume 65, « En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des ondées et tu bénis ses germes. » Donc, vous voyez, force de vie, là, il s'agit de la bénédiction de Dieu sur les graines, les fruits de la terre, etc. Psaume 132, 13, « Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour habitation, et il déclare, je comblerai de bénédiction ses ressources, je rassasirai de pain ses pauvres. » Donc Dieu a une intention quand il bénit, ce n'est pas de la magie. Son intention, c'est de rassasier les pauvres de pain, c'est de rassasier l'humanité qui s'enferme loin de lui dans sa pauvreté et qui s'éloigne de Dieu. Mais quand on est béni, on revient. Donc la bénédiction, en fait, est source de bienfaits. Alors au psaume 67, on a un petit passage qui reprend un petit peu la bénédiction que Aaron et ses enfants doivent prononcer sur le peuple, 67.2, « Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. » Et là, on apprend une chose, c'est que Dieu poursuit un but. Donc, là, on parcourt à grands traits, on fait de la poésie, on essaie de saisir qu'est-ce que c'est que cette bénédiction. On est invité à bénir, et là, au psaume 67, verset 2, Dieu dit « Afin que l'on connaisse sur la terre et parmi toutes les nations ton salut. » Comment est-ce que je suis venu à la foi ? Parce que j'ai été béni. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué de bénir. Vous avez continué de bénir. Venir à la foi, c'est être béni. Et vous avez été porteur de cette bénédiction. Et le but de Dieu, c'est que l'on connaisse sur toute la terre et parmi toutes les nations le salut qui vient de Dieu. Il y a un but à la bénédiction. Les cadeaux de Dieu dans la bénédiction sont donc la force et c'est la paix. la paix, qui est la présence de Dieu. On y reviendra dans une minute. Là, c'est juste quelques exemples dans les psaumes. Ce n'est pas l'intégralité. Hein. C'est quelques exemples que j'ai retenus parce que ça me parlait. Je voulais vous parler avec ces exemples. L'Éternel, au psaume 29, donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple et lui donnera la paix. Mais en fait, autant dire tout de suite ce que je me répéterai tout à l'heure, c'est la paix de Dieu, ça n'est pas l'absence de conflit. La paix de Dieu, ça n'est pas l'absence de guerre. Nous avons bien ça dans le témoignage de l'Église martyre. Les martyrs sont entourés de guerre, d'ennemis, de haine. On peut tout leur prendre, mais en eux, ils ont ce shalom de Dieu, cette paix de Dieu, cette présence de Dieu dans leur cœur. Je ne sais pas, vous avez fait le dimanche de l'église persécutée, et la dame indienne, n'est-ce pas, à qui on a tout pris, tout. Eh bien, elle a continué, elle est retournée chez elle, elle a continué de prier, des autres personnes sont venues, et elle a recommencé une église de maison. Voilà comment la paix de Dieu touche les cœurs. Ce n'est pas l'absence de troubles, c'est dans une existence, une lumière qui rayonne en nous, Christ qui rayonne en nous. Et si vous êtes passé par la prière, Bernard est témoin, moi j'ai souvent demandé la prière. Quand nous demandons la prière et que la présence de Dieu est agissante, délivrante, qu'est-ce que nous faisons? Nous bénissons Dieu en retour. Voilà, vous voyez. Passer de Barak, la force, à Eulogéo, je bénis. Je bénis. Je vais dire une bonne parole sur Dieu. Parce que lui, il a prononcé une bonne parole, mais quand Dieu prononce une parole, c'est un acte. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu veut que tu sois béni, et tu es béni. Psaume 28, verset 6, celui qui est ainsi, qui accueille la bénédiction et qui en est le sujet, qui l'a reçu, eh bien, peut s'écrier avec le psaume 28, 6 et d'autres. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Béni. Donc l'homme qui est béni, la femme, la personne, qui est béni par Dieu, en retour, béni Dieu. C'est tout ce qu'on a vu ce matin dans la louange. Alors, pendant la louange, je me suis aperçu qu'il y avait un texte auquel vous, probablement vous pensez tous, c'est le merveilleux texte des Éphésiens. Justement, une prière de bénédiction, on peut aussi dire action de grâce, c'est un peu équivalent. Donc, la célèbre prière des Éphésiens 1, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans l'Esprit Saint en Christ. Donc, ça montre que celui qui résume, qui présente, qui donne la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit vient sur nous? Parce que Jésus-Christ est la porte du ciel. Et que quand il s'est assis à la droite de Dieu le Père, selon Acte 2, il a déversé sur les 120 la puissance du Saint-Esprit. Donc béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction de l'Esprit dans les cieux, en Christ. Quand nous bénissons Dieu, en fait, nous reconnaissons notre dépendance vis-à-vis de son amour. C'est ça qu'on a entendu ce matin, hein, dans les prières qui sont montées de l'Assemblée des louangeurs. Ils ont dit cette bénédiction, ils ont fait mémoire de cette bénédiction et ils nous ont donné à entendre qu'en fait, nous voulons que notre vie dépende de Jésus-Christ. Nous voulons que nos fêtes de Noël dépendent de Jésus-Christ, pas des rochers Ferrero. Nous voulons que notre amour filial avec nos enfants, nos petits-enfants, dépendent de Jésus-Christ. soit habité par la présence de Jésus-Christ. Oui, avec la foi, j'ai découvert, approfondi mon besoin de dépendance vis-à-vis de l'amour de Dieu et de ses bienfaits. Et quand on rend grâce pour les repas, au moment des repas, c'est ce que nous faisons. Bien sûr, nous avons travaillé, bien sûr, nous avons gagné de l'argent, bien sûr, nous payons un loyer ou nous remboursons un crédit pour avoir une maison, bien sûr, etc., etc., etc. Bien sûr, nous sommes allés acheter le pain ou nous l'avons fait à la maison. Je suis le roi, n'est-ce pas? Non. Au moment de la prière, on dit, c'est toi le roi. C'est toi qui m'as donné ce pain. C'est toi qui me permets d'être là ce soir. Et j'adresse à Dieu une bonne parole, c'est-à-dire une bénédiction. En fait, on s'aperçoit que la bénédiction grandit en accueillant la bénédiction de Dieu, en disant la bénédiction. Donc c'est un entraînement. Plus je bénis, plus je suis béni, plus je dépends de Dieu. Et nous voyons que la foi est complètement impliquée dans l'accueil de la bénédiction, dans le fait de dire la bénédiction. Et c'est ce que Paul dit dans Galates 3:7. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Alors, est-ce que vous êtes des filles et des fils d'Abraham? Amen. Voilà cette bénédiction qui est une force qui met en mouvement, c'est une dynamique. Et c'est comme ça que la vie de Dieu se manifeste. On va lire maintenant la bénédiction de Aaron. Est-ce que quelqu'un peut la proclamer, s'il vous plaît? Quelqu'une? Et je les bénirai. Mon nom et je les bénirai. Alors, je vais essayer, non pas d'expliquer, mais de vous dire comment moi j'interprète en m'inspirant de ce que j'ai pu lire dans des versets bibliques parallèles qui ont des expressions semblables et vous dire comment, quand nous avons prié et quand nous maintenant nous continuons de prier, nous prions pour notre pasteur, pour l'Église, nous prononçons cette bénédiction en fait. Donc voilà comment je le comprends, c'est-à-dire je l'ai mis entre parenthèses par rapport à la parole de Dieu, bien sûr. Au verset 24, quand je dis que l'Éternel te bénisse, comment je le comprends, compte tenu de ce que je vous ai dit, c'est que l'Éternel te donne sa force. Après, et qu'il te garde, ben là j'aurais dû remettre les parenthèses, l'attente de tout croyant, c'est comme David au psaume 16, hein. Garde-moi, mon Dieu. Ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu. Donc, le désir de tout croyant, c'est d'être gardé et protégé par Dieu. Donc, que Dieu te donne sa force, qu'il te protège, qu'il te garde. Verset 25. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Ah, ça pose quand même... Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? De dire à Dieu, fais briller ta face sur toi. Je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais voilà comment je l'ai interprété. Que Dieu fasse briller sa face sur toi, c'est-à-dire reçois l'approbation de ton Dieu. Reçois la faveur de Yah. Yah, c'est le mot résumé pour dire Yahvé, pour dire l'Éternel. Reçois la faveur de Yah. Qu'il fasse briller sa face sur toi, c'est-à-dire que Dieu te soit favorable. Que Dieu te donne sa force, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa faveur, son approbation, et qu'il te donne la grâce, ça va, on sait en gros ce que ça veut dire, le pardon immérité, l'action de Dieu gratuite sur nos vies. Quelle différence entre que l'Éternel fasse rayonner son visage sur toi et que l'Éternel lève sa face vers toi. Eh bien, l'expression « lève sa face », on la retrouve dans le combat de Jacob et dans la rencontre de Jacob avec Ésaü. Et il dit « Je peux te voir face à face parce que Dieu a levé sa face sur moi. » Quand Dieu lève sa face, l'expression hébraïque, qui est plus trop parlante pour nous, mais quand on dit que Dieu lève sa face, ça veut dire qu'il coopère avec toi ou que tu coopères avec Dieu. Il est dans ton action, il est dans ton agissement. Donc, dans son agissement, Jacob peut rencontrer l'ennemi juré d'Ésaü pour se réconcilier avec lui. Voilà comment je comprends, hein, mais il y a certainement d'autres manières. Donc, qu'il te donne la paix, ben voilà, c'est là, on va se le rappeler. Le shalom de Dieu n'est pas l'absence de conflit, mais une présence de Dieu qui donne sens à tout ce que tu as à vivre. C'est ça la paix de Dieu. Qu'est-ce que soit que ce que tu as à vivre, elle est remplie de la présence de Dieu. Par exemple, ben c'est une image qui me vient maintenant, mais quand j'ai commencé à être aumônier d'hôpital, c'est très dur d'être aumônier d'hôpital quand vous avez 20, 25 ans, ou je ne sais pas moi par là, très jeune, et que vous allez voir des personnes qui sont, paf, clouées dans un hôpital par une maladie. Alors moi, il y avait l'accusateur qui disait, ben, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas leur dire que tu es fort, que tu es jeune, que tout va bien pour toi, et eux, comment ils sont? Qu'est-ce que tu vas leur dire, hein? Et alors j'étais dans ce doute, dans l'ascenseur, et nous avions déjà des relations amicales, protestants, évangéliques. Et là, quand l'ascenseur s'ouvre, il y a une dame évangélique qui sort de l'ascenseur, qui dit « Pasteur, mon petit papa est à l'étage au-dessus, il est en train de mourir, et Dieu vous envoie. Venez avec moi. » Hop, elle me prend, elle me monte dans l'ascenseur, troisième étage, chambre du papa. Eh bien oui, cet homme, il était en train de lâcher prise sur toute sa vie. Mais d'abord, il m'a dit, c'est merveilleux, vous savez, pasteur Anglade, que vous soyez venu. Parce que quand j'étais petit, les protestants comme vous nous lançaient des tomates pourries quand on allait à l'assemblée. Et maintenant, je vais passer de ce monde à celui du Père. Et c'est avec un pasteur protestant que je vais prier. Je suis tellement content que vous soyez venu. Donc, vous voyez, sa bénédiction, il l'avait au fond de son cœur. Et elle était là, elle le tenait. Et elle lui permettait de faire le pas qu'on ne fait qu'une fois, qu'on n'a jamais fait avant et qu'on ne refera plus quand on est dans la main de Dieu. Et après, j'ai été un aumônier béni grâce à la parole bénissante de ce frère, de cet homme. Je pense qu'on peut passer la diapo suivante. Voilà. Donc en fait, vous rappelez que Dieu dit à Aaron, Moïse dit à Aaron, vous allez bénir comme ça. Dieu a dit, vous allez bénir comme ça, comme ça, comme ça. Et il ajoute, c'est ainsi qu'ils inscriront mon nom sur le peuple de Dieu, sur les Israélites. Et moi, en retour, je les bénirai, je donnerai ma force. Le nom de Dieu est entièrement contenu dans cette bénédiction. Dieu est celui qui bénit, qui donne la force vitale. Dieu est celui qui garde. Il est ton gardien, il est ton protecteur. Dieu est celui qui se montre favorable aux humains. Il rayonne, il est favorable. Dieu est celui qui fait grâce et qui pardonne. Dieu est celui qui lève sa face sur nous, c'est-à-dire celui qui inspire, celui qui accorde le soutien, la bienveillance. Il est celui qui te donne la paix, la plénitude de vie. Voilà le nom de notre Dieu. Nous n'avons pas une idole muette, nous n'avons pas une idole que nous avons fabriquée, nous avons un Dieu qui fait tout ça pour nous. Eh bien, c'est ce nom de Dieu et cette bénédiction que le pasteur Kremer nous appelait à appliquer sur les personnes pour lesquelles nous prions. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il a fait une erreur biblique? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'appliquer la parole de Dieu, la bénédiction aaronique, en dehors du peuple de Dieu? Alors, à cette époque, c'était le Dieu de la circoncision. Pour nous, le Dieu dans lequel nous entrons en alliance par le baptême, est-ce qu'on peut prier une telle bénédiction sur des étrangers, des gens qui sont loin de Dieu? Alors, ma réponse, c'est oui. Parce que je lis dans Genèse 47, 7, que Joseph fit venir Jacob, son père, le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Waouh! Donc ça, c'est un vrai païen pour nous. Il prie, il le bénit. Il y a peut-être d'autres versets. Bon, Monsieur Cuen, dans la direction de sa traduction Semeur, il répugne à traduire le mot bénir, qui est là, il est bien là en hébreu, il s'agit bien de bénir, mais il veut pas traduire par bénir. Donc, je sais plus très bien, il met Jacob pria pour lui, ou... Oui, Alfred Kuhn, oui. Moi je dis Cuen, je crois qu'on dit Kuhn en alsacien. C'est lui qui a dirigé la traduction du Semeur, qui par ailleurs est excellente, etc. Je n'en dis aucun mal. Je dis simplement que je m'engage en disant que je choisis de traduire par « Jacob a béni le Pharaon ». Alors, dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui vient tout de suite, qui est cité par les dictionnaires sur la bénédiction, par exemple, en 1 Pierre 3,8. Alors, je vous le dis, mais ce texte, en fait, il faut bien réfléchir. Mais en 1 Pierre 3,8, écoutez. Soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance et d'humilité. Verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Donc dans le dictionnaire que j'ai consulté, il y avait le verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, l'insulte pour l'insulte, mais bénissez. Alors, je me suis dit, c'est intéressant. Mais quel est le contexte de l'épître de Pierre? Le contexte de l'épître de Pierre, c'est l'Église. Donc il ne s'agit pas du tout de bénir et pas du tout de bénir des méchants qui sont en dehors de l'Alliance. Il s'agit, dans l'Église, de se bénir mutuellement. Et vous vous rendez compte, nous, des fois, on se plaint de nos assemblées. Oh, il y a de la médisance, ah, ceci. Mais là, Pierre, il écrit à des frères, ne rendez pas le mal pour le mal. C'était un peu une drôle d'Église, non? Ni l'insulte pour l'insulte. Eh ben, dis donc. Bon, ben, aujourd'hui, finalement, parfois dans l'Église, il y a des choses qui vont jusque-là. Et dans l'Église, donc, vous avez été appelés à bénir. Ça ne pose aucun problème, on est facilement d'accord avec ça. Il y a un passage dans cet épître de Pierre, au chapitre 2, qui dit « Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. » Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Pour que sur le point même où il vous accuse de mal agir, il voit vos belles œuvres et glorifie Dieu au jour de son intervention. Ici, il ne s'agit pas de bénir avec une parole de bénédiction. Il s'agit d'être en bénédiction. Et ça, Bernard nous l'a rappelé dimanche dernier. Par exemple, Jérémie déjà disait « Installez-vous dans le pays où vous êtes, parce que de votre bonheur dépend le bonheur de la ville où vous habitez. » Donc, être en bénédiction. Jésus aussi, on va y venir pour finir, comme ça on restera sur Jésus. C'est pour ça que je n'ai pas cité d'abord Jésus, mais d'abord les apôtres, les réflexions, après on restera sur Jésus. Donc, Ça, c'est être en bénédiction, c'est comme Jésus avait dit, n'est-ce pas, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu. Donc, il y a toujours une intention de Dieu d'aller rejoindre l'humanité par la bénédiction, mais aussi par ce qui est bon, ce qui est ce que le chrétien recherche de juste et de bon, et qu'il vit. Alors maintenant, en fait, avec l'apôtre Paul, on a un bon contexte où Paul invite à bénir nos ennemis. Et là, on est tout à fait dans la ligne de Jésus. En Romains 12, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Et un peu plus loin, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, efforcez-vous de faire ce qui est bien devant tous. S'il est possible et pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. » Donc le verset 17 et 18, ça rejoint la recommandation de porter des œuvres justes et bonnes aux yeux des non-croyants. Mais en Romains 12, 14, on voit bien qu'il s'agit là de ceux qui nous persécutent. Ce n'est pas seulement ceux qui sont désagréables avec nous dans l'Église, c'est ceux qui veulent détruire notre foi, notre famille, notre Église, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et finalement, voilà ce que Jésus lui-même a dit et enseigné. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Ou quelqu'une?
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
Voilà, soyez des filles et des fils de votre Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent et manifestez de la bonté, du bien à ceux qui vous haïssent. Donc finalement, quand nous bénissons, nous nous comportons comme Jésus. Jésus, il a fait ça, il a vécu ça. Donc nous l'imitons. Voilà cette réflexion sur la bénédiction, sur la prière de bénédiction. Maintenant, petit 3, comment je l'ai mis en pratique. Donc c'est juste un exemple, puis après, ben, chacun peut. Donc je veux mentionner que je n'ai pas été exhaustif et que c'est un parcours à grands traits sur la bénédiction. Vous avez sûrement des choses intéressantes et motivantes à dire. Bon, ben, on ne peut pas tout dire juste à la chair comme ça. Comme je vous l'ai dit dans mon petit témoignage pour commencer, notre petite fille aînée avait des difficultés et je pense qu'on aurait bien intérêt à prononcer la bénédiction d'Aaron sur tous les aînés des familles parce qu'ils essuient les plâtres des jeunes parents, ça brise un peu nos égocentrismes, hein, on sort 25 ans, on a pensé à soi, on a construit son petit bonheur, et puis d'un seul coup, il y a le troisième qui arrive. Jamais 203. Donc, mais ce que nous savons, c'est quand nous avons commencé à bénir notre petite fille aînée, à prononcer le nom du Dieu qui donne la vie, elle a commencé à changer. Alors je vous propose, ce que je retiens, c'est que voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut bénir. Et comme j'ai toujours peur d'être maladroit, moi, j'aime autant utiliser la parole de Dieu. Déjà, j'ai le culot d'appliquer cette bénédiction à moi-même. Donc, je m'approprie cette bénédiction. Je crois que je vous ai mis le texte de ma prière. J'applique cette prière à moi-même pour dire ma dépendance vis-à-vis de Dieu. Et voilà ce que je dis, appliquant les versets, appliquant le sens des versets que j'ai trouvés. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin que tu me gardes et que tu me protèges. J'ai besoin que tu rayonnes au-dessus de moi, que tu m'accordes ta faveur et ton pardon sur mes erreurs. J'ai besoin que tu inspires mes projets, que tu sois auprès de moi, que tu me soutiennes. J'ai besoin de ressentir une réelle communion entre toi et moi. Voilà comment j'applique ces phrases un peu anciennes de rayonner, de grâce, de lever la face. Je les mets en œuvre de cette manière-là. Et donc, quand je prie pour quelqu'un, je dis sur cette personne, je lui dis que l'Éternel te bénisse, c'est-à-dire qu'il te donne sa force. On peut le dire tous ensemble si vous voulez. Que l'Éternel te bénisse, c'est-à-dire te donne sa force, te garde et te protège. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, c'est-à-dire qu'il t'approuve dans ce que tu fais de bon, t'accorde sa faveur et sa grâce, c'est-à-dire son pardon immérité. Que l'Éternel lève sa face vers toi, c'est-à-dire que ta vie soit marquée par la sollicitude et la bienveillance de Dieu, par son soutien dans tes actions, et te donne la paix, c'est-à-dire une plénitude de sens ou de vie, chaque jour. Amen. Dieu le fera, car c'est là que réside son nom. Amen.